des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Su comme Kéten, su, mettons, quand il arrive.
Non, non, c'est Kéten.
C'est Kéten de mettre du Alain Lefebvre quand Alain Lefebvre vient chez toi. Et tu sais, là, une petite musique d'ambiance du Alain Lefebvre, il me semble que ce serait cool.
Je ne dis jamais ça.
Oh, une petite jamais d'ambiance. Ça
aux gens, aux musiciens classiques qui font de la musique d'ambiance.
OK. Fait que toi, tu trouves que c'est quétaine et têteux de faire jouer du Alain Lefebvre quand Alain Lefebvre vient souper, mais c'est toi qui as eu l'idée de sortir le clavier de notre fils pour l'installer dans le salon au cas où Alain Lefebvre, ça y tenterait, lui qui joue sur les plus grands pianos au monde, de jouer sur une espèce de patente cacane dans notre salon. Hein? Là, en fonction orgue. OK, on va voir, c'est drôle. OK, mais là, en fonction orgue...
Non, c'est la
organe. Montre-moi ton bel organe.
OK, tiens, mets-le.
Parce que toi, tu joues un peu du piano.
Non, la fonction harpe.
Ah non, c'est un psychode. C'est le
clavecin. C'est la fonction qu'on appelle Catherine Perrin.
Tu sais jouer du piano. Mais bref, on va avoir Eddie Gagné. Ouais. Comédien et metteur en scène de théâtre. Et bon, Alain Lefebvre, pianiste et compositeur. Deux formes d'art qui, pour certains, sont considérées comme élitistes ou obsolètes, ou dépassées, surannées. Le théâtre la musique classique, est-ce que ça a encore sa place dans notre monde?
OK. Mais Yves Desgagné, excuse-moi, oui, il fait du théâtre, il fait des mises en scène, puis tout ça, mais il a joué dans certaines des émissions de télé les plus populaires. Ouais. Tu sais, quand il faisait L'Héritage, là, son personnage était hyper populaire. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui s'est cantonné dans quelque chose de pointu, puis tout ça, là. Oublie pas que Yves Desgagné, il a aussi fait un film, hein? Il a fait Roméo et Juliette. Donc, c'est pas juste un comédien, un metteur en scène, c'est aussi un réalisateur.
Il a fait deux films, en fait, puis il a fait une comédie avant.
Ben, il a fait un documentaire sur Pauline Marois, la première. Fait que, est-ce que j'ai comme entendu un drôle de bruit? Sinon, je connais un morceau.
That's it.
OK. J'allais faire une blague, mais bon.
Non, fais-la.
Certains diraient que tu pèses toujours sur la même note.
Dans les chroniques.
Tes ennemis diraient ça. Martino, il est toujours en train de jouer sur la même note.
Non, mais on a tous quelques notes dans la tête.
Oh! Écoute, juste à ce moment-là, il arrive quand même quelle histoire. Ah ben, ah oh ben.
Il paraît que l'enregistrement a déjà commencé.
Oui, ça commence là. Hey, salut.
Monsieur Richard.
Très bien, et toi?
C'est très gentil de venir ce soir.
Oui, comment ça va?
La vie qui ne change pas.
Hey, t'es tellement fin. Et là, ici, de façon très subtile et nuancée, Richard a eu l'idée de sortir notre petit clavier
électrique,
cheapette,
Gonzalez. Tu peux faire de l'orgue.
Ça. Beaucoup de talent, hein.
Alors, on mange la bonne saucisse italienne avec des petits poivrons et des petits avocats avec des crevettes.
Vous n'êtes pas vegan?
Non, pas à tout.
Non.
Je suis à tout.
Tu es à tout, tu es à boire et à papa?
Omnivore.
Oui. Comme disaient mes étudiants du conservatoire, à un moment donné, on travaillait des personnages du répertoire classique. Et je leur ai dit, bon, il y a quelque chose qu'on ne questionne jamais, alors que l'important entre deux acteurs, c'est l'authenticité. Et dans la vie, on le sait, la sexualité a quand même un lien important entre les gens. Ouais. Même quand il n'y en a pas de sexualité, il y en a une, dans le sens qu'on rencontre même quelqu'un dans le métro, peu importe, il y a un rapport physique.
Oui.
Toujours, avec les gens, qui que ce soit. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on explore la sexualité de Macbeth.
Hein?
De comment il est avec ses soldats, Macbeth? De Lady Macbeth? Quelle sorte de femme c'est? La mégère apprivoisée? Qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi on ne parle jamais de la sexualité des personnages classiques?
J'ai dit, bon, on va explorer ça.
Ils ont dit, OK, OK, trouvez que c'est plate un peu comme sujet.
Ah oui. Là,
ils ont dit, mais... Dave Lamain, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, je veux savoir, est-ce que ce sont tous les personnages du théâtre classique des hétérosexuels? Est-ce qu'il y a des... Ils ont dit, mais t'es donc ben binaire.
Ah, ah bon? Non. Ah,
mais j'ai dit, toi, Sylvain, est-ce que ton rapport au monde, est-ce qu'il est plus hétéro ou homosexuel? Tu sais, je le prends au bon. Là, les étudiants partent à rire. Puis, il y a une fille qui lève sa main, mais elle dit, ben, ça dépend du party.
Ah, ça dépend du party!
Ça m'a bouché, Richard. Je savais pas quoi dire. Puis, elle était là, ben oui. Ben ouais. Ça dépend du party. Ils trouvaient mon affaire ancienne, caduque et inintéressante dans notre monde actuel.
Je parle la bouche pleine, pleine de saucisses. Mais quelle réplique extraordinaire, quand même.
La bouche pleine de saucisses.
Ben, ça peut porter à confusion. Hey, l'autre jour, j'étais avec Yves Desgagnés pendant le verre. J'avais la bouche pleine de saucisses.
J'ai entendu l'autre jour des gens qui parlaient de lesbiennes non-genrées. Attends une minute, là, si t'es une lesbienne, c'était une femme qui couche avec des femmes.
Oui.
Comment tu peux être une lesbienne non-genrée?
Ah, oui.
Dire que t'es lesbienne, si tu dis que t'es une femme qui aime les femmes, donc t'es genrée.
Oui, c'est comme la fameuse blague de la femme, la lesbienne de Terre-Neuve.
C'est quoi, la lesbienne de Terre-Neuve?
Est aux hommes.
Parce que je sais pas ce que ça veut dire une lesbienne non genrée.
Non, mais c'est parce que
ça veut dire quoi?
J'ai aucune idée.
Je sais pas.
Ah, OK, vous le savez pas.
Non, non, mais non, on sait pas. Il se dit
comme ça. Pour nous, c'est un mystère.
C'est comme un gâteau qui n'est pas un dessert.
Mais ça dit, c'est parce que j'ai un secondaire.
Non, mais c'est ça, là.
Je suis pas allé à l'école très longtemps.
C'est comme un végétarien qui mange de la viande.
T'as raison.
Non, mais c'est ça. C'est un végétarien qui mange de la viande. Je pense que tout comme il y a eu. Faut accepter de vieillir. Tout comme il y a eu une césure. Entre notre génération et la génération de nos parents, maintenant, c'est pas nous les jeunes qui donnons des coups de pied dans la canisse, c'est eux. Et il y a une césure entre nous. Et la, c'est une question de génération. Les plus jeunes, qu'est-ce que je te dise?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'homophobie là-dedans. T'sais. Alors, le monde, là, ils ont 15, 14, 12 ans, 13 ans, ils se font traiter de tapettes à l'école. Ah. Ils trouvent ça insupportable. Alors, vaut mieux être une petite fille que d'être une tapette.
C'est ce que Jasmin voit, que j'attends.
C'est ce que Jasmin. C'est sa théorie.
C'est ce que Jasmin.
C'est une réaction de la droite beaucoup plus qu'un objet.
Ça, j'aurais pas pensé à ça.
Jasmin Roy dit ça, qui est un. Le gars, Jasmin Roy, lutter contre l'homophobie par
ben
les
oui,
puis le gris toute sa vie.
Et bon, dit, oui,
puis a aidé les gens.
Un jeune garçon qui dit j'ai une attirance pour un garçon.
Ouais.
Je dois être une femme.
D'accès à l'école.
Mais je dois être une femme. Parce que c'est pas normal que
sa mère lui dise parce que t'es une fille, mon petit fille.
Gars. Ah oui, donc je veux changer
parce
de sexe.
Parce que t'es pas normal. Que
c'est impossible que je. Et il y a beaucoup de gays qui disent qu'il y a une certaine forme d'homophobie chez les transgenres. Et là, il y a une chicane.
Oui.
Et là, pour une fois, c'est pas une chicane entre les hétéros puis les autres. C'est une chicane entre les minorités sexuelles elles-mêmes. Mais il y a une chicane entre les gays et les transgenres parce qu'il y a des gays qui disent. Bien, il y a un côté homophobe là-dedans.
Parce qu'il y a un pourcentage extrêmement important de jeunes qui se font opérer, qui, après, le regrettent.
Ben oui, ben il y a eu un reportage de Radio-Canada là-dessus, puis la fille qui a fait le reportage s'est fait harceler par le lobby.
Que je connais bien,
Émilie Dubreuil.
Elle a été l'objet de... Pourquoi?
Une vindicte, parce qu'elle a fait un reportage sur la question la plus taboue, qui est les gens qui changent de sexe, qui transitionnent. Et qui, après, soit le regrettent ou se rendent compte que dans leur nouvelle identité, ils ne sont pas heureux, heureuses, et reviennent en arrière.
Ouais.
Et donc, elle a fait un reportage tout à fait objectif en donnant la parole à ces gens-là et qui s'exprimaient en disant « ben moi, je l'ai fait, puis après, je suis revenue en arrière. »
Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui le regrette.
Non,
ce n'était pas un jugement sur les personnes
qu'on genre. Il y a plein de cas de parents qui arrivent avec leurs enfants chez le psy.
Oui.
Le psy dit « c'est parce que mon petit gars est une fille. » Et avec une seule consultation, il peut aller se faire opérer demain matin.
T'es très courageux. J'espère que demain, tu ne nous appelleras pas en disant « enlever ça de la discussion
ben, ». C'est-à-dire que...
C'est une discussion.
La différence, je respecte ça à tout point de vue.
Ben oui.
Je pense que c'est multiple. Et je pense aussi qu'il n'y a pas juste... qu'on n'est pas juste 100% en affaires. Je pense à ça aussi. Oui. Il y a quelque chose de culturel.
Il y a un spectre.
Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer, tu sais. Oui. Puis dépendamment du party, pour revenir...
Mais non, mais j'adore cette phrase-là.
Ça peut être... Il peut avoir des petites nuances. Mais il y a beaucoup, je pense, d'homophobie dans tout ça.
Reprends-en, Alain, mais j'aimerais ça que toi aussi, tu aies de la saucisse dans la bouche.
Moi, j'aime. Tu sais, il y a les filles qui font du...
Moi, je suis un homme ouvert. mais tu sais, c'est ce qu'il y a aussi qui est un petit peu... je trouve troublant dans notre société. J'écoute mon bel artiste à côté de moi depuis tout à l'heure. On n'est pas dans une société qui glorifie l'intelligence ou qui glorifie la pensée.
Non, ça c'est sûr.
On est dans une période qui, à mon avis, est une période qui est sombre. Parce que la personne qui pense ou la personne qui veut penser va, avant même d'être analysée par ceux qui l'écoutent, parce que les gens n'écoutent plus, va être jugée sur ce qu'elle dit. En réalité, moi, ce qui m'effraie beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est le niveau d'éducation, les niveaux... qu'on donne aux enfants, qu'on ne s'étonne jamais après ça d'avoir des politiciens à la hauteur de notre système scolaire. Moi, je me rappelle, ça fait 20 ans, j'ai créé un organisme qui s'occupait des jeunes gays en région. Et je n'ai jamais crié sur les toits et c'était très simple.
Tu as fait ça?
Oui.
Je ne savais même pas.
Ce que je faisais, c'était très simple. J'allais souvent voir les enfants, j'identifiais souvent ces jeunes garçons qui étaient... Et je faisais des conférences et un jour, j'en ai un qui a, devant tous les élèves, qui a dit « j'en peux plus d'être battu, j'en peux plus d'être... »
Oui, mon Dieu.
Alors, ce que j'ai fait, ce que je faisais moi à l'époque, je l'ai fait pendant des années, c'est que je faisais des... J'identifie les plus...
Fragiles.
Non, mais les non. J'identifie
les
plus toughs de la classe.
Ah, oui.
Et je faisais j'organisais des groupes que j'appelais les gardes du corps.
Incroyable.
Mais explique un peu, tu identifiais les plus roughs de la classe.
Oui.
Puis ils devenaient les gardes du corps les plus petits.
Pour pas que les petits gays. Ceux qui le battaient, finalement, devenaient les protecteurs.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée.
Les gardes du corps. C'est génial.
Ils valorisaient en plus.
Du bourreau, ils passaient au sauveur et ils aimaient ça. Ce que je trouve un peu, donc pour revenir à ce qu'on disait, ce que je trouve un peu moi qui me désespère, c'est que j'ai l'impression quand même que cette société qui se dit qu'il n'a jamais autant été libre et on parle de tout, finalement, on n'a jamais été aussi peu libre.
Absolument.
Parce que
on ne peut plus rien dire.
Parce que si tu prends, si tu veux, des époques, la liberté était beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire.
Quand le
premier ministre du Canada qui est en pleine classe de jeunes, interrompt une jeune femme qui dit quelque chose
Mankind.
Et là, tu te dis, mais...
Attends, il faut juste expliquer le détail. Elle est dans un groupe, il y a une jeune femme qui dit Mankind, et Justin Trudeau interrompt la jeune femme en disant, on dit plus Mankind, il faut dire People Kind, parce que c'est pas juste les hommes.
Alors là, on atteint, je sais pas ce qu'Yves en pense, on atteint, à mon avis, un summum...
Totalement.
D'imbécilité.
De bêtises, de moronie et de bêtises.
Et là, ça vous touche, vous.
Mais là, si tu veux, cet élan fabuleux de pseudo-liberté devient un élan de nazisme déguisé.
Attends une minute. Ouais. Alain,
Est-ce qu'il y a une censure aussi dans les choix musicaux par rapport aux allégeances de ces...
Mais Wagner, ça doit être difficile. Ben ouais.
De nature, parce que je peux parler des autres, de nature, je déteste la censure. De nature, je suis quelqu'un qui ne croit pas à la censure. Je déteste même entendre dans un dîner « j'ai un ami gay » ou « j'ai une amie lesbienne ». Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme
à Paris, à une époque, on disait « j'ai un ami juif et moi je fréquente des Noirs ». Non, je m'en fous, moi. Même si tu te mets un sapin dans le cul, je m'en fous.
Mais non, c'est ça.
Tu peux même avoir des relations merveilleuses, c'est un raton laveur. Si t'es heureux, je suis heureux.
Non, je suis d'accord.
Shylock.
Ben, on va dire...
Shylock de Shakespeare.
Ah, c'est terrible.
Shylock, c'est un usurier qui est juif.
Oui.
Et qui dit, bon, je vais t'enlever à toi Étant donné que tu me dois de l'argent,
une livre de chair.
Tu peux pas me donner l'argent, je vais t'enlever une livre de chair. Bon,
ouais.
Shylock, Pacino l'a joué, Shylock. Là.
Oui.
Et aujourd'hui, ça serait problématique.
Ah, ben oui. Mais moi, j'ai lu plein d'articles là-dessus où est-ce que c'est enlevé des affiches et
qui est une
ça.
Grande pièce.
Qui est une grande pièce intelligente, brillante. Comme le personnage est juif, c'est presque plus joué. C'est plus joué c'est pour plus les raisons joué. Dont tu parles. La même chose, j'ai voulu monter il y a
alors,
quelques années.
Alors, excuse-moi, il faut dire... mettre ça en contexte. À l'époque, les usuriers étaient des juifs. Ben oui. Là, qu'est-ce que tu veux, je te dis.
Ben oui.
C'était ça.
Il faut bien que le personnage ait une identité. Il y en avait une identité.
C'était des juifs, ben oui. Pas les usuriers. Ça ne veut pas dire que tous les juifs sont des menaces, ne pensent qu'à l'argent.
C'est une pièce extraordinaire, en plus.
C'est une pièce extraordinaire. Il faut voir
la
le
même
film,
chose. Là. Jean Genet a écrit une pièce extraordinaire que j'essaye de monter depuis des années.
Bonne?
Aucun personne. Non, Yves, on ne veut même pas la lire.
C'est quoi?
Les Nègres de Genet.
Oui, parce
les
que Genet
c'est juste à cause
c'est
du
une
titre.
Pièce ouais. Qui dénonce le racisme de façon exceptionnelle.
Mais
c'est assez
comme...
que l'auteur appelait ça les Nègres. Et la pièce commence, les personnages, les acteurs, c'est des juges, l'histoire, très rapidement, c'est des juges qui jugent une jeune fille qui est morte et ils soupçonnent un noir de l'avoir tuée après un viol. Et c'est le jugement là-dessus. C'est ça la pièce.
Mais c'est pour dénoncer le racisme.
Ah, ça dénonce le racisme de façon exceptionnelle. C'est et la pièce commence, écoute ça, c'est impossible aujourd'hui. Les blancs, il y a des blancs dans la pièce, ils se mettent le visage en noir.
Ah, arrête ça.
Écoute
arrête
ça.
Non,
je ne vais pas au bout.
Terminé.
Je vais aller au bout. Et les juges, c'est joué par des noirs qui
se mettent le visage
blanc.
En blanc.
C'est génial.
C'est génial.
C'est génial.
Et c'est un procès de notre société de blancs.
Mais moi, je pense que Robert Lepage devrait monter ça. Ah, écoute, il n'y a pas eu assez
raison,
de troubles l'année dernière.
Les gagnés devraient monter ça.
Ah, moi, j'ai. En tout cas, je ne vous dis pas où, là, parce que je ne vais pas sur le journal. Mais... Non, Yves, on ne veut même pas la lire. J'ai dit, vous êtes malade mental. Ils ont dit, comment tu veux qu'on affiche ça dans notre théâtre?
Les nègres.
Mais j'ai dit, ça va. Justement, mais il y aura écoute, peut-être une révolution.
Attends,
ça
c'est OK, moi, je vais dire, là.
Excusez-moi,
ma théorie.
Parle
non, mais ma théorie.
Non, mais j'adore ça.
Non, mais
des petites crevettes, ça va te calmer, là, ça va te calmer le homard.
Lui montre. Par le racisme.
Par l'absurde, en fait, il montre.
C'est une démonstration par l'absurde, mais tu ne peux
gens,
pas faire ça aujourd'hui.
À cause des médias sociaux, peut-être, où tout est au premier degré, il y a un changement de civilisation.
Oui.
Il y a un changement de pensée, il y a un changement.
Mais il faut, sais-tu quoi, accepter ça un peu, nous autres, notre génération. Mais pour faire suite à ce que Yves dit, je suis d'accord avec toi, Yves. Là où j'ai peur, Yves.
Oui, vas-y.
Mais là où j'ai peur, et je lis beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de livres qui sortent, et bizarrement, beaucoup de gens parlent de 1984 d'Orwell.
Mais oui.
Ben oui.
Et beaucoup de philosophes en parlent, parce que là où j'ai un peu plus
peur,
là où j'ai un peu plus peur, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a une érosion de nos vraies libertés. Tu sais, toi et moi, on se rencontre.
Oui.
On se connaît peu.
Mm-hmm.
Et bizarrement, nous savons, et je m'en fous là, nous savons que nous nous aimons.
Oui, exact.
Nous savons qu'il y a des atomes crochés.
Absolument.
Quelle est la racine de cet atome crochu, je pense, c'est la racine de l'amour, de la liberté.
Oui.
Alors, que je sois ce que je sois, on s'en fout.
Ouais. Mais c'est l'art aussi, si je peux me permettre.
Oui.
Je le dis pas de manière élitiste, là, du tout. Je vais donner un exemple. J'ai eu la chance de travailler pendant 2 mois avec Jeanne Moreau. La grande actrice Jeanne Moreau. Mais je shakais juste à l'idée que je vais travailler avec Jeanne Moreau.
Mais avoue qu'elle était chiante.
Mais pas tant que ça. Et je vais t'expliquer. Je peux en parler 2-3 minutes, mais tu sais, Richard, toi qui es amateur de cinéma, Jeanne Moreau.
Mais c'est
l'ascenseur
pour les gens.
Il y avait Sophia Loren, Jeanne Moreau, il y avait Elizabeth Taylor. Elle était dans les Big Five. Là.
Mais oui.
C'est au-dessus. C'est pas juste une bonne actrice.
C'est Bardot aussi.
C'est Bardot.
Exactement.
Et là, ils m'ont dit, elle va arriver tel jour, tel soir à l'aéroport.
As-tu les kettles, comme on dit?
Ah, j'ai les kettles. Je me dis, comment je vais faire sur le plateau, la diriger?
Jeanne Moreau.
Comment je vais faire pour lui dire, va à gauche, assis-toi, puis ça serait mieux de donner ça dans le sens-là.
Chris, la fille a été dirigée par les plus grands cinéastes au monde.
Écoute, je veux pas développer trop là-dessus.
Va à gauche.
Tu savais que ça n'a pas de bon sens.
Tu voyons donc.
Je peux bien te le dire, mais tu savais que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
Alors, le premier jour.
Alors, juste avant le premier jour, c'est qu'il m'avait dit, mais C'est une trop longue histoire, je veux pas tout.
Il y a trop longtemps, on va vous ennuyer.
Pour non, non, mais ça m'intéresse. Mais non.
Ça devait pas être Jeanne Moreau au départ, ça devait être Isabelle Adjani qui joue le rôle. Parce qu'on avait un coproducteur français, puis la productrice, elle me dit, avec qui t'aimes? Il nous faut une vedette française. Alors, j'ai dit, moi, mon rêve, là, elle a mon âge, c'est de travailler avec Isabelle Adjani. Alors, je reçois un appel 24 heures plus tard de Dominique Besnéard, l'agent, qui me dit,
ben oui.
Vous avez, Dominique. Monsieur Desgagnés, un rendez-vous avec Isabelle au Plaza Athénée, tel jour, dans trois jours. Pogne l'avion, et je m'en vais au Plaza Athénée, et il vide le Plaza Athénée. Il y a personne, parce qu'elle a des gardes du corps, parce que ça n'a rien à voir, les vedettes, avec ici, là-bas.
Non, non,
elle se fait poursuivre, elle, depuis l'âge de 14 ans qu'elle m'a raconté, puis j'ai passé toute la soirée avec Isabelle Adjani. Et puis, elle accepte de jouer le rôle. Puis elle me dit, rendue à 11 h le soir, « Mais c'est trop long, mon histoire, ça va vous ennuyer. »
Non, non, mais vas-y, non? Mais résume.
Non, mais comment tu le convaincs?
Prends ton temps, mais résume.
Ce que je veux simplement dire, tu dis, on sait qu'on s'aime. Bien, au bout de 5 secondes, c'est une actrice.
C'est Isabelle.
Mais ce que je veux dire, c'est que la fluidité de la conversation était comme toi puis moi.
C'est vrai.
Parce que nos codes étaient semblables.
C'est vrai.
Elle parlait de la comédie française, elle parlait de telle auteur, telle affaire. Et au bout de, sans blague, de 5 minutes, si je faisais abstraction de la star, il y avait une fluidité.
Une fluidité,
oui. Ah oui, donc, Yves, ah oui, tu penses-tu? Ah oui, c'est vrai qu'Arthur Miller, c'est ton personnage
Isabelle
intéressant.
Isabelle Adjani t'a dit, en oui, donc?
Non, elle a pas dit en non, mais...
Non, mais quand tu sors de là, tu te pinces.
Non, mais je me suis pincé pas pour ça. Écoute,
en sortant de là, t'es-tu allé prendre un verre en disant...
Oui, mais je vais te dire pourquoi.
Oui, c'est parce qu'elle l'a pas fait, finalement, le film. Ça a été Jeanne Moreau.
Pourquoi qu'elle l'a pas fait? Voici l'histoire, et là, vous allez tomber à terre. Déjà, grosse annonce, petit magasin, comme on dit l'autre. Isabelle Adjani, elle me dit, Yves, elle dit, est-ce que ça te gêne? Elle dit, il est rendu 11 heures, elle dit que mon copain vient de prendre le café parce qu'elle dit, il va venir me chercher pour rentrer à la maison.
Oui,
on était juste tous les deux. C'était Alain Ducasse qui était le chef quand même.
C'était pas triste.
Vous connaissez le grand chef?
Aïe, ben oui, Alain Ducasse. Ouais. Ben oui, t'es au Plaza Athénée.
Alors, arrive un homme, il faut que je me lève.
Oui,
il faut que je fasse un peu de théâtre quand même, c'est ça mon affaire. Moi, je vais le prendre.
Attention parce que t'es Mikey.
Ouais. C'est grand chef.
Alors, arrive un homme, je vais vous dire, c'est une des plus belles personnes que j'ai vues de ma vie.
Un des plus beaux spécimens humains.
Ah oui.
Un gars...
toute race confondue.
Ah oui?
A dit, il est neurochirurgien. Ah bon? Elle m'a dit, Yves, il faut que je te dise qu'il est dans une période difficile de sa vie. Elle dit, c'est un peu bouleversant, je peux pas t'en parler. Peut-être qu'il t'en parlera lui-même, mais... Je veux juste te prévenir qu'il est fragile émotivement parce que... Bon, d'accord. Alors arrive ce pétard incroyable.
Jeune?
Oui.
Plus jeune que elle?
Elle a mon âge, puis on va dire qu'il est à peu près de mon âge. Il n'y a pas de différence d'âge.
OK, pas de façon marquante. Pas genou, là.
Non. Alors bonjour, tout ça. Puis il vient prendre un café, tout ça. J'ai dit à Yves que vous étiez... que tu étais un peu dans une période difficile. Il dit oui. Il dit, c'est moi qui ai opéré Marie Trintignant.
Oh!
Il dit, alors elle dit oui. Elle dit, il a été dépêché quand, en Lituanie, quand il est arrivé les événements.
Puis
c'est lui qui a tenté de la sauver.
Oh, non.
Et il me raconte en détail, mes amis, c'est pas une blague, ce qui s'est passé et quand il est arrivé dans l'appartement.
Qui s'est fait tuer par...
Bertrand
Cantat. Bertrand
Cantat, il dit elle avait doublé de volume. Son visage était noir parce que tu méfiais. Il dit, on l'a rentré in extremis. Il dit, j'ai pris une scie pour dégager l'hémorragie interne. Il me raconte tout. Écoutez bien, mais il me raconte tout ça. Et il dit, je n'ai pas pu la sauver.
Et là, il est
bouleversé et tout ça. Et ah bon. Moi, j'en reviens pas de mon souper. J'en reviens pas du punch.
Ben oui, c'est là.
Quelle soirée. Et là, ça reste comme ça. Elle s'en va, les bancs brassades, elle a lu le scénario, elle est ravie de s'en venir. Le tournage est dans 2 mois. 3-4 semaines plus tard, je reçois l'appel de Dominique Besnéard.
Son agent?
Son agent. Bon, comme vous êtes au courant, Yves, Isabelle ne pourra pas faire le film.
Comment ça?
Oui, elle était très affectée par les événements qui venaient de se produire. Alors, bon, ben, quels sont ces événements? Mais il dit, vous devez être au courant, ça a fait le tour du monde. J'ai dit, non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était un imposteur. J'ai dit, comment c'était un imposteur?
Oui, cette histoire!
Ben, il dit, c'était un simple infirmier qui se faisait passer pour un neurochirurgien.
Il n'avait jamais été en fuite
de la France. Il s'est enfui aux États-Unis. Il a été démasqué. Et on le cherche. Il est présentement aux États-Unis.
Mais c'est un scénario de film.
J'ai dit, mais voyons donc,
c'est incroyable. C'est pas vrai qu'il a opéré.
C'est-à-dire qu'il s'est approché d'elle, mais il ne l'avait pas vraiment opéré. Et ce qu'il a fait, il est allé aux États-Unis, il est allé en Californie,
mais
il est allé opérer Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday, il failli mourir sur la table d'opération. Il se faisait passer pour un médecin français.
À cause de lui?
Oui. C'était un imposteur, non, comme dans le film de Leonardo.
Non, mais là, c'est capoté.
Le film de Spielberg où Leonardo...
Mais j'ai dit, c'est incroyable. Eh bien, oui, il est recherché par les policiers partout à travers les États-Unis. Vous devez être... Je dis, non, je suis pas au courant du tout. Ben, fait qu'il dit, elle pourra pas faire le film, elle est complète.
Je peux comprendre. Donc, c'était pas un docteur du tout?
Pas du tout.
Mais le résultat...
Incroyable.
C'est que Isabelle a été très affectée par tout ça. Et là, toi, t'as...
Alors là, Dominique, il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoutez, à tout prendre, envoyez-moi Jeanne Moreau. Je dis ça comme en blague. J'ai dit, elle passera de tante à grand-mère. Il me rappelle, il dit, Jeanne Moreau vous attend dans 2 jours. À l'hôtel Manceau, ou dans le 17e. M'en va là. Et c'était l'année où on fêtait les 100 ans du cinéma français. Et toute la ville était placardée des affiches de Gilles et Jim de Jeanne Moreau avec sa cigarette. Oh. Et pendant que je mangeais avec Jeanne Moreau, il y avait une immense... Tu sais,
c'est
les affiches
trop
françaises,
drôle.
Là. C'est comme 8 buildings, les affiches françaises. Derrière elle, c'était Jeanne Moreau à l'âge de 20 ans.
Oh.
Et Jeanne Moreau, qui avait 78
ans. Mais dans Gilles et Jim.
C'était une belle rencontre. Puis finalement, elle a fait le film pour nous. Mais je raconte tout ça pour dire que même avec elle, c'était très particulier. Mais... D'abord, on ne peut pas la vouvoyer. Elle voulait que je la tutoie, Jeanne. Et très rapidement, Richard, il y a eu un échange sur le théâtre, sur le cinéma. D'ailleurs, pendant ma rencontre avec elle, Aura dit, j'ai un ami qui aimerait bien prendre le dessert. C'était le louche.
Claude?
Oui. Alors, il est venu prendre le dessert.
Après ça,
elle dit,
Yves,
elle dit, on va être obligé d'interrompre la conversation parce qu'elle dit, mon ami m'attend au bar pour son prochain film. Mais je vais vous le présenter. C'est Almodovar.
Mais tu me fucking niaises-tu?
Non, pas une niaise partout.
Attends une minute.
Je dirais pas
attends
ça,
minute,
là.
Attends une minute, attends une minute.
Non, bon, on s'est serré la main. Et puis, à me présenter comme un réalisateur canadien. Et puis, à patati patata, vous allez bien? Oui, ils disent, on a un projet ensemble, tout ça. Puis, je les ai laissés très discrètement. Mais juste pour vous dire...
T'avais Jeanne Moreau devant toi, puis tu dis, fais ci, fais ça. Puis, attends une minute. Tu disais, là, c'est pas bon, ça. Là, c'est pas bon,
mais tu dis pas ça
là.
Comme ça, j'imagine.
Non, mais ce que je peux dire,
bon,
une chose,
je disais... Ce que tu dis à Jeanne Moreau, c'est pas bon,
oui,
ça.
Je disais, Jeanne, on va mettre la caméra ici, là, puis vous allez vous asseoir. Tu vas t'asseoir, je la tutoyais. Jeanne, on met la caméra ici, le plan, et tu vas rentrer dans le cadre, puis tu vas t'asseoir. Elle venait me voir, puis elle disait, très bien, je vais faire ce que tu dis, Titi, mais Titi, je crois que pour ce plan, tu devrais mettre la caméra là. Non pas. Ah bon?
Bye.
Pourquoi, Jeanne? Parce que c'est mieux. Voilà tout. Ah bon? J'ai dit, Jeanne, on va faire un deal. Je vais faire mon plan. J'ai dit, on va essayer aujourd'hui. Tiens, on va aller vite avec les éclairagistes. Je vais faire ton plan. Tu sais, on va voir les deux.
Et puis, au revisionnement du rush...
Elle avait 100% raison dans tout.
T'es pas sérieux?
Il n'y a pas un seul plan de ce film-là que c'est pas elle. Elle avait raison dans tout.
Dans tout. Tout
une telle connaissance de la mécanique, de l'histoire, du récit. D'abord, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle connaissait les scénarios par cœur, mais pas ses sailings à elle, de tout le monde. C'était quel film, ça, Yves?
Romeo et Juliette,
qui n'était pas très bon, pour toutes sortes de raisons. Que ça, je vous rends une autre affaire. Ouais. Ça, artistiquement, j'ai été bien déçu du résultat parce que ça a été une saga sans nom, toute cette histoire-là. Monsieur bien secondaire.
C'est la démarche!
Tellement passionnante. Puis tu sais...
Attends une minute, là.
J'ai passé 2 mois avec elle, tu sais. Puis c'est tous les jours. Richard, après le tournage, tous les... Puis ça, c'est... Je suis sorti de là, ses genoux, parce que tous les jours, elle disait... Je t'attends, mon petit Yves. Alors là, on partait. Et j'allais être au St. James et jusqu'à 3 heures du matin.
Ben voyons donc.
Dans le cigare rouge, elle me racontait sa vie.
Elle fumait. Pas sérieux.
Elle fumait d'ailleurs. Mais... moi, j'avais arrêté de fumer. J'ai recommencé à fumer avec elle. J'ai
à
arrêté
cause
après.
De Jeanne Moreau.
Ah oui, puis elle disait, tu n'es pas crédible sans une clope, mon titi. Est-ce que je peux poser des questions à Alain Lefebvre?
Mais qu'est-ce
des
t'en penses?
Des questions qui m'obsèdent.
Ça s'appelle un souper.
Alain Lefebvre, t'es arrivé ici, t'avais 4 ans.
Oui.
Tu vivais à Villemar.
Oui.
Mais comment ça se fait que t'es devenu un pianiste si important à travers le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents te tapaient sur les doigts d'aller suivre tes cours de piano? Ils t'ont inscrit aux bonnes écoles? Rapidement, raconte-moi ton itinéraire. Comment t'es arrivé là?
D'abord... c'est merveilleux que tu me dis ça. Tu sais.
Il a fait le tour du monde.
Mais non, oui, c'est sûr.
Il est considéré.
À 16 ans, il était
dans un milieu extrêmement compétitif.
C'est ça.
Et extrêmement snob.
Tout à fait.
Parce que toi, tu parles du milieu du cinéma qui est compétitif, qui est snob et tout ça, sacrément. Okay. Le milieu de la musique classique.
Ah, non, est-ce qu'on peut laisser Alain répondre à la question?
Non, mais c'est important.
Le contexte.
Et c'est cette courbe-là d'un petit Québécois que je veux comprendre.
Mais oui, mais tout à fait, la question est excellente.
Ben, je te dirais, d'abord, moi, j'ai été chanceux parce que c'est les sœurs qui m'ont appris la musique.
Oui. Ça, c'est une chance qu'on a eu les sœurs dans notre société.
Les sœurs, à l'époque, au Québec. Elles étaient extraordinaires.
La peinture, le dessin, le piano, l'exigeant. S'il n'y avait pas eu ces petites religieuses-là, il n'y aurait pas d'art au Québec. Je ferme la parenthèse.
Non, mais c'est vrai.
Continuez.
Ouais. Elles ont été, sœur Berthe, sœur Marie-Thérèse Guay, ça a été... Et après ça, je sais pas. J'ai travaillé, papa, maman étaient...
Mais tu suivais des cours de piano à partir de quel âge?
4 ans. Mon premier concert, j'avais 5 ans et demi au Grand Théâtre de Québec. J'avais joué
T'étais précoce comme ça.
On dit que j'étais... j'avais
ne sois ça. Pas modeste. Réponds froidement à mes questions terribles.
Quand
est-ce
même.
Que je peux partir,
Ah oui, ben, je pense qu'on est tous...
La soirée est faite.
Ben oui.
J'avais juste à diffuser cette phrase-là, puis ça va être...
Ben oui, ça va être correct, ça fait la job.
Je sais pas, tu sais... Non, mais je te dirai si tu veux, parce que si tu veux, je réponds sincèrement à ta question.
Oui.
J'ai eu 2 moteurs dans la vie.
Okay.
J'ai toujours 2 moteurs.
OK.
Et toi, je t'écoute beaucoup depuis que t'es arrivé et...
Parce que je parle beaucoup, t'as pas le choix.
Non,
j'aime ce que
mais
tu es.
Mais elle a une qualité d'écoute.
J'aime ce que tu es. Parce que il y a 3 choses qui... 2 choses principales, mais 3 choses qui animent ma vie, c'est... La chose qui est le plus important pour moi, c'est d'aimer.
Oui.
C'est le moteur principal. D'aimer toujours mieux et toujours plus.
Oui.
Ça, c'est, je te dirais, c'est mon truc. La deuxième chose qui n'est pas politiquement correcte, c'est que je suis donc enfant d'immigrants. Et je l'ai dit à Sophie et je l'avais dit à Richard, ça fait déjà 15 ans. J'ai tout reçu du Québec. Le Québec m'a tout donné. Et j'ai réalisé rapidement, si tu veux, que si beaucoup je me faisais battre à l'école quand j'étais petit, c'est qu'il y avait une immigration française qui était profondément désagréable. Il y avait des Français qui migraient au Québec, qui étaient vraiment des gens...
Mais des vrais maudits Français.
Des maudits
le
Français.
Le syndrome Louis XIV, que j'appelais, moi.
Et dans cette mouvance, je te dirais que... Je sais que je m'en rappelle, j'ai quand même un peu de mémoire, je l'ai dit à Sophie. J'aime profondément le Québec.
Mais, je sens qu'il y a un mais qui arrive.
J'aime ma terre. Et je suis profondément irrité, mais terriblement irrité, de voir qu'on essaye de convaincre la nouvelle génération, les jeunes, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes depuis... Écoute, j'ai travaillé en milieu carcéral, en milieu... Enfin, tu le sais, tu...
T'as fait tout un travail social.
Et je trouve déplorable, si tu veux, cette espèce d'attitude qui fait en sorte qu'on essaye de convaincre les Québécois que d'être profondément Québécois ou d'aimer le Québec, c'est une... Première étape du racisme.
Oui, c'est du repli sur soi.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que papa et maman étaient de cette génération de Français qui étaient très Français.
OK. Mmh. Qu'est-ce que faisait ton père?
Papa était professeur de clarinette.
Ah, OK. Ah, donc, il y avait déjà cette initiation
musicale
à la maison.
Et nous sommes, nous, Québécois, ben, quand je dis nous, parce que je me considère comme Québécois, ben, nous sommes une cible facile. Ma bataille pour André Mathieu, parce que quand moi, j'ai parlé d'André Mathieu la première fois au Québec,
on m'a connu grâce à lui, Mathieu.
Mais oui. J'ai demandé à quelqu'un, t'es un alcoolique. Et c'était tellement symptomatique, tellement réducteur.
Symptomatique. Comme il jouait dans des vitrines de magasins. Là.
Oui, oui. Le beau film de Jean-Claude Labrec. Hein.
Que là, si tu veux, ça c'est le deuxième point. Donc, l'amour de ma patrie. Ma patrie, c'est le Québec. Et la troisième chose, c'est complètement hallucinant, c'est qu'un jour, je prends un taxi à Montréal et je demande d'aller à la basilique de Notre-Dame. Et il me dit « What ?» Je dis « La basilique Notre-Dame ». Et il me répond « What ?» Enfin, je vais faire l'histoire très courte. Finalement, je réalise qu'il y a une grande responsabilité quand tu es un immigrant. Et la responsabilité, c'est d'aimer le pays qui t'accueille.
Ben oui.
Quand tu es invité, tu lui dis merci. Mm-hmm. Tu vas pas chier sur la table.
Non.
Nous, on permet à nos immigrants d'arriver chez nous. Mm-hmm. On les torche. Mm-hmm. Ils peuvent nous chier dessus. Mm-hmm. Alors moi, je veux dire, quand il y a eu toute l'histoire du débat de la loi 21, etc., à un moment donné, je me suis surpris à faire un article et j'ai dit, écoutez, je revenais de voyage, j'ai dit, écoutez, le prochain qui chie sur les Québécois, je lui casse la gueule. Et apparemment, ça a fait comme, c'était un peu tâche, c'était pas très classique comme réponse.
Ouais.
Mais je m'en tabarnak.
Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Alain.
Parce que je trouve que...
C'est quasiment gênant d'entendre ça de quelqu'un qui n'est pas né ici.
Ce qu'il faudrait...
Il aime plus le Québec que le Québec s'aime.
Mais c'est vrai que il y a des racistes partout. Mais les Québécois sont gentils.
Ils ont tous les défauts, les mais pas,
on n'est pas ça.
Non, mais les Québécois sont gentils.
Mais oui. Quand tu vois, et tu disais dans un de tes articles, ouais. Quand
on
tu vois des lois logiques et des lois raisonnables permettent encore une fois d'avoir les anglophones, parce que je m'en fous, je les nomme, pour encore nous réduire à néant en disant que nous sommes finalement au Canada la tâche des racistes et que j'ai envie de leur dire, mais l'hypocrisie de l'anglo-saxon, le racisme profond de l'anglo-saxon, nous, Québécois, même en 2000 ans d'existence, on n'arrivera jamais à vous battre. Mais
comment est arrivée cette progression-là, si on revient...
L'écœurement. L'écœurement de voir qu'à chaque fois que c'était possible, on pouvait chier sur les Québécois. L'écœurement de voir que le théâtre à Paris, souvent, est un théâtre misérable et que le théâtre à Montréal était un théâtre intelligent. L'écœurement de voir qu'on a des artistes extraordinaires. L'écœurement de voir que le Québec est le porte-étendard d'un pays et qu'on traîne comme un boulet le reste du Canada. L'écœurement de voir finalement qu'au Québec, on est toujours en train de s'automeurtrer et qu'on est toujours en train de se dire qu'on est des petits, qu'on est des si, qu'on est des petites terrasses, une petite pizza. Je suis...
Le petit café.
Je suis persuadé que nous sommes un grand peuple.
Mais... De vanter les grandeurs, les splendeurs du peuple québécois, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a un côté noir et sombre à ça.
Oui, mais c'est parce que, Alain, tu aimes le Québec, que tu as des ambitions pour le Québec.
Tu veux, quand on jette un regard... Le plus sain et le plus raisonnable possible sur la télé d'État, qui il y a quelques années, présentait quand même entre 200 et 200, 300, 400 minutes de musique classique. Aujourd'hui, c'est comme si cette maison d'État, qui donc est payée par nos impôts, le Québec est l'endroit où on achète le plus de disques physiques de musique classique. Au Canada.
Ah, sérieux? Au Canada?
Ah oui, mais quand même.
Bah, oui. Ah oui?
Bah, oui. Mais c'est sûr et certain que si tu gangrènes, c'est-à-dire que tu faisais référence à ça, quand tu prends, par exemple, le monsieur et madame, tout le monde, dont je fais partie, parce que je suis un gars de la rue Jogues, mes parents ont voulu, mon père était garçon de ferme, c'est-à-dire qu'à 5 ans, t'étais vendu à un fermier. Donc, papa n'est pas né...
Il vient pas de...
Avec une cuillère en argent dans la bouche, là.
Mais il a donné des cours de clarinette.
Il a pris la clarinette parce qu'il s'est engagé dans l'armée française pendant 20 ans.
Ah, c'est comme ça qu'il a, il y avait un instrument.
C'est comme ça qu'il a payé ses études. Ah, bon. Quand on a, si tu veux, de l'argent de l'État, et moi, comme je te l'ai dit, je te rappelle, je m'en fous maintenant. Quand on a de l'argent de l'État et quand on a une télé d'État ou une radio d'État, c'est-à-dire qu'il y a un mandat qui devrait être très clair. Oui. Le mandat devrait être que la proposition de la culture doit être faite
au premier plan,
largement. Mmh.
La révolution sera culturelle aujourd'hui, elle ne sera pas.
Elle n'est plus faite.
Tout à fait,
c'est-à-dire que nous avons remplacé les Beaux Dimanches. Tu pouvais voir Martha Argerich faire un concert pour Prokofiev. Tu pouvais avoir du ballet, tu pouvais avoir du théâtre, etc. On a remplacé ça par des gens qui peuvent se prononcer sur tout et sur rien.
Oui, parce que c'est après le référendum de 95 que tout a changé. Ils ont dit que jamais on va lui donner de voix à ces hostiles-là. Ils sont mieux, puis ils ont créé Québec solidaire, full pin, on va les diviser, et plus jamais les hostiles vont prendre le pouvoir
quelque part, est-ce qu'on
va tuer les hostiles.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, si tu veux... Est-ce qu'il n'y a pas une volonté...
Politique.
Si tu veux, politique
de... Non, mais il y a une paresse des gens.
Moi, mais une volonté politique aussi. Puis moi, je vais juste dire quelque chose, puis après ça, je vais me taire. Vous avez parlé, t'as parlé, Alain, des Anglais.
Oui.
Mais moi, je vais faire une nuance quand même à leur décharge, les chers Anglais.
Ils aiment plus la culture que nous.
Mais pas rien que ça, c'est qu'ils ont été élevés comme ça. Et je me souviendrai toujours de la phrase de Paul McCartney quand il est venu sur les plaines. J'étais au premier rang, puis il a dit en français, « Oui, mais c'est nous qui avons gagné ces plaines d'Abraham. » Et il avait raison. On a dit à toutes les anglophones, on a gagné, on les a conquis, ce peuple-là. C'est à vous autres, les enfants. Amusez-vous avec eux autres.
Les jeunes Québécois qui ne connaissent pas Tremblay, ça me fait pleurer.
C'est une honte. Ah non,
c'est une honte. Et qui ne connaissaient pas Tremblay-Brassard, c'est comme ils ne connaissaient pas...
Non, ils ne connaissent pas Marcel Dubé, ils connaissent pas...
Oui, mais tu sais... Cette semaine, on est allé voir l'homme
c'est
de la main.
C'est l'échec de notre génération, Richard et Sophie.
C'est à nous
d'être les passeurs, de les transmettre.
Oui.
Ils ne peuvent pas arriver et savoir ça. Puis on ne l'a pas fait. À l'époque, moi, l'École nationale était un nid de création québécoise.
Ouais.
J'ai eu comme mes professeurs à l'École nationale. Tiens, si vous me permettez, je vais leur rendre hommage. Mon prof de poésie, c'était Gaston Miron.
Jesus Christ!
Mon prof d'histoire de la civilisation, c'était Michel Lalonde.
OK.
J'avais un prof de littérature.
Michel Lalonde, Speakwise.
Speakwise.
Mais oui.
Elle enseignait l'histoire des civilisations. C'est une érudite hors commun.
OK, sors d'ici, je suis jaloux.
Je vais te dire autre chose. Mon professeur de littérature, hein, à l'École nationale, c'était Victor Lévy-Beaulieu.
Avec qui t'as joué l'héritage?
Bon, après ça, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais c'est comme ça qu'il a écrit les rôles que j'ai beau, qui m'ont rendu célèbre.
Est-ce qu'il t'a aussi les deux bars?
Ouais, puis le Montréal PQ, puis le Bleu du Ciel, où je faisais un alcoolique comme ça. C'est Victor Lévy-Beaulieu, était notre professeur de littérature. On avait c'était les professeurs de l'École nationale. On avait un professeur de symbolisme. C'était Jacques Languirand.
Incroyable. Professeur de symbolisme.
C'était le fun au théâtre, parce que le théâtre est souvent un acte symbolique.
Est-ce qu'il fermait des joints pendant qu'il vous enseignait?
et quand j'étais étudiant en troisième année, les exercices étaient créés par des auteurs québécois, puis c'était Raoul Duguay qui nous avait écrit une pièce de théâtre.
OK, puis t'as pas 150 ans, là.
J'ai pas 150 ans. Et c'était parce que l'École nationale, sous la direction d'André Pagé, c'était comme ça.
Mais Alain, c'est notre faillite à nous.
Oui.
On n'a pas transmis.
Oui. Il y a eu un bris.
Il y a eu une ciseur.
Mais des responsables, je ne suis pas gêné de le dire, c'est Radio-Canada. Parce que moi, je suis allé vers l'école de théâtre, c'est parce que je voyais les théâtres. Quand j'étais jeune, je voyais des Goldoni, des Molière. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? J'écoutais ça chez nous, on venait de la campagne.
Je trouvais ça bizarre.
Je viens de Verdun.
Oui.
Les gens, mes parents étaient non éduqués, il n'y avait aucun livre chez
moi. Oui, mon père n'est jamais allé à l'école. Papa, t'as-tu été à l'école? Tu es allé une fois un matin où la maîtresse n'était pas là.
J'avais une télévision en noir et blanc dans ma chambre. Puis le dimanche soir, il y avait Ciné-Club.
Avec une laine d'acier sur l'antenne,
là,
Charles.
Là, il présentait les films de Bergman, puis les films d'Alain René. Et je regardais ça, je disais, c'est bien bizarre ces films-là, c'est bien weird. Comment ça, je comprends pas ça? Puis moi, j'aime comprendre les affaires.
Ouais.
Comment ça, je comprends ça? Puis là, je fouillais un petit peu, puis ça. Puis tu sais, c'est comme...
T'as fait ton éducation.
Ils m'ont éduqué. Je regardais des Antonioni, des René, puis tout ça.
Moi, pareil,
j'étais
pareil.
J'étais no fucking body, là. C'est comme, ils ont baissé les bras.
Ah, totalement. Totalement, de manière honteuse.
Et l'élite...
Mais c'est voulu.
L'élite qui, eux, Ouais, regarde ce genre de film-là qui
c'est voulu.
Écoute ce genre de musique-là, disent.
C'est-à-dire que
les gens, c'est pas assez bon pour les gens à qui
les
on parle.
Les pauvres peuvent pas écouter ça. Mais moi, je trouve un mépris
le challenge,
total.
Le challenge, c'est
complètement
que,
d'accord
c'est que finalement, c'est beaucoup plus facile de manipuler un peuple qui n'est pas éduqué.
Ben oui.
Que de et ça, je pense que à la fin de la journée, quand tu as la fête du Canada ou la fête du 24 juin. Tu as des organisateurs, tu as de l'argent. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour ces fêtes-là.
Ouais.
Fais juste une étude très simple sur les 7 ou 10 dernières années. Tu as du rock, du pop, du western, de l'autochtone. Tu auras du tamoul. Tu auras tout, Carlis. Tu n'auras pas 2 minutes de musique classique.
C'est vrai.
Quelle bonne observation.
Nous sommes au Canada les propriétaires de grands musiciens classiques, de grands orchestres. Tu n'auras même pas, t'as même pas un premier ministre qui a les couilles. Hein? L'autre, là, le clown d'Ottawa, qui a même pas les testicules nécessaires pour dire, on va mettre le boléro de Ravel. Non, 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 non.
Oui, oui.
Il, non, il, et il y a quelque chose qui
est là, il y aura.
T'auras
toutes les musiques, t'auras le western, le country.
Tu peux mettre Albinoni, tout le monde aime ça.
Non, tu ne l'auras même pas. Le drame qu'on a, c'est que je travaille avec les jeunes depuis 40 ans. Et aujourd'hui, t'as peut-être 2% de jeunes de moins de 18 ans qui ont fini un livre au complet. Dans les écoles, dites nos écoles. Tu sais. Alors, le but à accomplir, tu ne fais pas penser les gens. Moins ils pensent, mieux tu t'en sors.
Mais c'est 1984.
Ben voilà, là. Et c'est de ça qu'on parle.
C'est 1984.
Je ne suis pas optimiste pour la musique classique, Richard.
Ah non?
Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Parce que,
c'est un art difficile.
Parce que d'abord, elle n'est plus proposée. C'est pour ça que je parlais un peu plus tôt de
Radio-Canada.
De la télé, bon, je ne nommerai pas enfin, la radio, la télé d'État, parce que quand tu ne fais plus la proposition, tu ne peux pas espérer avoir un public.
Ben non.
Tu sais, chez nous, quand on avait l'âge qu'on avait quand on était jeune, on écoutait, on entendait de la musique classique. À ce moment-là, dans le cerveau, il en reste toujours des bribes. Mm. Et quand tu atteins l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, tu as des souvenances, tu as des flashs et tu vas...
Des films.
Tu vas retourner à la musique classique. Aujourd'hui, les gens qui doivent faire, c'est impératif, ne le font plus. Ils ne font plus pour toutes les mauvaises raisons de la planète. Alors, quand on parle de démocratie, elle n'existe plus. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est la proposition. Qu'est-ce que c'est que la proposition? C'est d'avoir, dans les radios et les télés d'État, parce que ça peut être que ça, on peut pas demander aux services privés, c'est pas pareil, là, c'est pas le même concept. Ce sont des gens qui ont un mandat obligatoire, parce que leur mandat, c'est une obligation. Tu dois faire la proposition aux jeunes.
Ben oui.
Après ça, exposer les gens.
Et si les jeunes te disent après, comme tu me disais plus tôt, j'ai envie ou j'ai pas envie,
je trouve qu'on devrait faire comme à New York où dans le il y avait un théâtre à une certaine époque de
Eugene O'Neill,
qui vient d'une famille d'acteurs. C'est
le
que
père de Una 12
mois
O'Neill,
par année, tu pouvais voir un O'Neill. Les touristes pouvaient venir voir. Je trouve qu'un petit théâtre de 250 places devrait à l'année longue nous montrer des pièces de Michel Tremblay.
Mais t'as tellement raison.
Il y a quelque chose de tellement effrayant parce que moi, j'habite le centre-ville de Montréal depuis 35 ans au même endroit. Je dis pas où, mais en tout cas au même endroit, tout près du quartier des spectacles.
D'accord.
À chaque année, il y a entre, depuis quelques années, il y a entre 11 millions et 15 millions de personnes, de touristes l'été. Et ils repartent au mois de septembre sans jamais connaître notre culture. Et c'est très grave.
Ça, c'est vrai.
Ils sont dans le quartier des spectacles, ils voient des comédies musicales américaines, ils voient du théâtre français de Molière ou TNM, ils voient toutes sortes de calices d'affaires et ils repartent, ils n'ont absolument aucune idée. Okay. Ils n'ont pas entendu notre ami Alain Lefebvre.
André Mathieu.
Ils n'ont aucune idée de notre culture.
Et non seulement ça.
Et c'est très grave.
Ils vont aller boutiques.
En terminant, quand je vais à Paris et que je reviens, oui, au bout d'un mois, j'ai plein d'idées de la culture française,
bien
mais
sûr.
Ici...
Non. Et en Espagne, la culture espagnole,
exact.
Et en Italie, la culture italienne.
combien...
C'est blessant.
Et je veux pas aller trop loin là-dedans. Combien ça a été laborieux de parler d'André Mathieu.
Ah oui, ben oui.
Moi, j'avais...
Je peux l'imaginer.
Tu connais Claude Gingras, tu l'as connu.
Ben oui.
Claude Gingras, il me dit, mais là, Mathieu, c'est pas bien bon, cette musique-là.
Claude Gingras, qui était critique pour la presse.
C'était fou, c'était un alcoolique. Je dis, Claude Tabarnak, Modeste Moussorgski. Ah. Il était tellement alcoolique qu'il faisait fondre son cirage à chaussures. Parce que quand tu prends du cirage à chaussures et tu le fais fondre, il y a de la térébenthine, c'est comme ça qu'il fumait. Ah. Penses-tu que les Russes se rappellent de Moussorgski comme le compositeur ou comme le gars qui buvait la térébenthine de son cirage à chaussures? Et là, tu vois, dans deux ou trois mois, je vous donne cette...
Un petit scoop.
Bon, pas c'est des petits scoops avec moi.
L'information privilégiée.
Mais mon deuxième disque chez Warner Classic va sortir et c'est un disque entièrement André Mathieu.
Chez Warner Classic.
Oui, et là, j'ai non, mais je veux pas que ça sonne comme plug. Je le dis parce qu'on parle.
Ah non,
t'as toutes les raisons d'être fier.
Et je parlais, j'ai eu la réunion parce que tu sais, Warner, c'est quand tu parles, tu parles en même temps à la personne qui est à Londres, celle qui est à Berlin, celle qui est à Paris, celle à New York. Ils sont quatre, tu sais. Ouais. Et à un moment donné, il y a le type de Londres qui dit... parce que moi, tu me connais, tu sais, ça a été une obsession.
Mais oui,
une saine obsession. Je pense même que j'ai fait chier du monde ici, tu sais. Et j'entends le gars de Londres me dire « It's going to be big. We'll make it big. This is great music. » Parce qu'ils l'ont déjà, ils ont déjà entendu le disque. C'est, le disque, c'est l'œuvre de Mathieu, deux pianos avec Hélène Mercier. Donc, on est partenaires. Et là, moi, je dis pas un mot. Et à un moment donné, très sincèrement, là, je suis au téléphone, il y a ma Jojo toujours là. Vous le savez, j'aime ma femme. Je dirais,
bon, il ne faut pas d'aimer ta femme.
Non, mais maintenant, il faut s'excuser d'aimer sa femme. Il faut s'excuser d'être fidèle.
C'est ce que Jean-Pierre Ferland chantait. Ouais.
La gang, ils se parlent en même temps. Et là, il y a Lutte, l'Allemande, qui a une idée de marketing. Elle dit, oui, on va parler du Québec, on va faire ça. Et là, ils ont décidé de sortir le disque le 14 février parce que c'est l'amour d'Alain Lefebvre pour le Québec.
Ah, mon Dieu!
Ça va être ça. Et là, moi, je pleure. Ça fait 30 ans que je me bats pour ça.
Mon Dieu!
Et Martineau, là, c'est la reconnaissance. Martineau, elle sait. Quand je dis Martineau, pour les auditeurs, Jojo. C'est Jojo, elle sait pourquoi je pleure, tu sais. Alors, tout d'un coup, elle prend l'autre ligne et elle dit « Alain, I have to go somewhere, I'll take... » Et je pouvais plus parce que quand je vois aujourd'hui, si tu veux, bon, non seulement que j'ai Hélène Mercier qui va, c'est quand même pesante, et qui va m'aider là-dedans, que j'ai toute l'équipe de Warner et que pendant 30 ans, j'ai entendu, moi, les spécialistes, entre guillemets, de la musique classique qu'au Québec, toujours chier sur Mathieu.
Ah oui.
Alors que partout ailleurs...
Ça, c'est génial.
Mais pourquoi il chiait tant sur Mathieu?
Parce que...
À cause de l'âme, moi.
Parce qu'on est né pour un petit pain.
Parce qu'au Québec, on n'est pas capable... Je me demande si on va être capable un jour de faire des monuments à qui que ce soit, tu sais. On va peut-être faire des monuments à des imbéciles, style intervieweurs qui ont des émissions à la télé depuis quelques années qui peuvent parler autant de l'Afghanistan, du Pérou et de la chasteté des ratons laveurs. Ceux-là, peut-être qu'ils auront une capsule.
Non, mais...
Parce que plus t'es moron, plus t'es divinisé. Mais les personnes qui se battent vraiment pour une idée de l'amour du Québec, je sais pas si on les reconnaîtra.
Cette semaine, t'as laissé tomber une bombe. Moi, je considère que c'est une bombe.
Ah, oui.
Et c'est pas une bombe politique, c'est pas un truc controversé,
c'est un truc j'ai vu ça.
Éminemment intime. Et moi, ça fait des années que je te connais et tu m'avais jamais parlé de ça, t'en avais jamais parlé publiquement.
Non.
Cette semaine, il y a deux jours, t'es allé à la télé et tu nous as révélé au Québec que tu as une sœur qui s'appelle Isabelle, que ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vue, que tu la cherches, qu'elle est trisomique et qu'elle est quelque part au Québec. Et moi, ça m'a jeté à terre, Alain. Puis je ne peux pas te laisser partir ce soir sans que tu m'expliques d'où. Puis pourquoi cette semaine, tu as choisi d'en parler alors que ça fait 20 ans que tu n'en parles pas?
Et l'autre petite chose, si je peux compléter, comment se fait-il que vous n'avez plus de nouvelles? Une trisomique, elle doit être prise en charge par
quelqu'un, quelqu'une ou quelque chose? Elle n'avait pas d'autonomie comme telle, peut-être?
J'ai été pris au piège, quelque part, parce que j'ai visité cet été ces maisons qui sont destinées aux gens qui ont des difficultés. Et c'est des maisons qui sont dans un état de pauvreté, un état de décrépitude. Et les gens qui travaillent pour aider ces jeunes adultes, c'est incroyable. Et à un moment donné, moi, je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire un concert bénéfice. Il se trouve que dans une de ces maisons, j'ai une de mes nièces qui est là. Et à un moment donné, j'ai eu un journaliste qui a...
Comme
pensionnaire.
Comme pensionnaire.
Trisomique qui a 36 ans maintenant.
Okay.
Et il y a un journaliste qui a gratté, abandonné, bref, et qui a voulu faire sous-entendre que mon action du concert de cette semaine était une action pour aider un membre de ma famille. Quand Isabelle est née, dans les années 72-73, mes parents ont pris un choix qui était possible à l'époque, c'était de laisser à la curatelle publique un enfant qui était non seulement trisomique, mais apparemment qui avait aussi des problèmes hydrocéphales. C'est-à-dire qu'il y avait...
On appelait ça les têtes d'eau à l'époque, ici au Québec.
Et j'en ai pas parlé parce que mes parents étaient extrêmement, extrêmement discrets. Ils ont beaucoup, beaucoup souffert de ça. Maman, ça a été peut-être le plus grand chagrin de sa vie, je pense.
Ah oui.
Mais ça m'a tellement fait chier, si tu veux, d'avoir ces deux commentaires que je me suis dit, ben écoute, si vous voulez qu'on joue au con, on va jouer à deux. Alors, j'ai répondu à cette personne via le média télévisé et quelques jours avant, le média écrit que je m'étais impliqué dans cette cause parce que oui, j'ai une sœur qui s'appelle Isabelle. Je sais même pas si elle est vivante. J'ai dit au public que j'avais une sœur et c'est vrai que je voudrais la chercher. Après ça, c'est sûr que c'est certain j'ai reçu des centaines de courriels de gens qui voulaient m'aider. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Je veux pas. Je trouverai le moyen en temps et lieu.
L'as-tu connu cette petite fille là?
Non. Jamais.
Ah bon?
On l'a jamais vue. Maman n'en a jamais parlé. Tu sais, les familles françaises d'une certaine époque.
Je veux dire, c'est au moment de sa naissance qu'elle a été placée.
Tout de suite.
Ah bon? Ok.
Mais les familles québécoises aussi. Là.
Ouais.
Ok, mais j'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris qu'elle était à un endroit, puis tout à coup, il ne la retrouvait plus.
Non,
carrément disparu.
Ils l'ont placé.
Ah oui, ils l'ont placé.
Il y a une caractéristique de la société québécoise, c'est le secret.
Oui.
C'est pas le secret, c'est l'oubli.
Ah oui, hein?
C'est l'oubli, comme chantaient Michel Tremblay et André Gagnon dans...
Ben, chanté par René Claude.
Ben, l'oubli.
Qui est maintenant Alzheimer.
Et je me souviens... qui est la devise la plus ironique, la plus
mésadaptée,
bizarre. De, je me souviens alors que Christ, on oublie tout. Asti, qu'on se souvient de rien. Asti, qu'on se souvient de rien.
Est-ce qu'on trinque à ça, les amis?
Oui.
Alors moi, je propose qu'on trinque aux amoureux de la culture.
Ah oui.
À la vie, à l'amour et à la liberté.
Tout à fait.
Toi, Barneau, j'ai l'impression d'être dans un film de Falardeau.
Sophie, on va ajouter la beauté dont parle.
Ah, la beauté, mais en...
Le règne de la beauté.
Moi, si je parle de la beauté, il faut que je trinque avec mon mari. Je t'aime, mon amour. Ben oui.
Moi, je trinque avec Alain si on parle de beauté.
Est-ce qu'on
peut même s'en rappeler.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi,
oui.
Sans être taxé d'être... est-ce qu'on peut dire aussi au Québec?
Mais qu'est-ce que t'en penses?
Et qu'on continue à se battre pour cette terre...
On n'a pas à avoir honte
d'aimer le Québec.
Notre beau Québec.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.